Lavaine Armand, une histoire de famille, une histoire de territoire. Épisode 2, la découverte de Lavaine.
Nous sommes à la fin du 19e siècle, dans les paysages sauvages et minéraux des Grandes Causses. Et c'est ici que commence l'histoire de Lavaine Armand.
Il y a 100 ans, une équipe d'explorateurs découvre sur le Causse-Méjean, entre Méréueis et Saint-Enimie, sur le territoire de la commune de Hurlaparade, une cavité souterraine naturelle qui aujourd'hui encore est considérée comme un trésor de la terre et du temps. Nous sommes alors en 1897. La notoriété des Causses est grandissante. Les premiers touristes sont enchantés par ce pays des merveilles aux multiples contrastes, devenu terrain d'exploration et de rencontres pour les membres de sociétés savantes, scientifiques et géographes. Parmi eux, Édouard Alfred Martel, qui se liera d'amitié et d'affaires avec les gens du pays.
Après une époque, en gros le milieu du 19e siècle,
Vincent Besson, directeur de la société Avène Armand,
où il y a eu l'ascension, la découverte de l'alpinisme, la conquête de tous les sommets des Alpes, Édouard Alfred Martel, il s'est passionné non pas pour les sommets, mais pour le monde souterrain. Et progressivement, il est allé visiter des petites cavernes, etc., etc., jusqu'à un acte fondateur majeur qui a été l'exploration de l'abîme de Bramabio dans le Gard, juste à côté de Méroès. Et il a découvert d'autres sites, il a découvert d'Argilan, il a découvert d'autres choses sur les Grands Causses, jusqu'à découvrir Lavaine Armand, qui a été son apothéose en septembre 1897. Alors, au cours de cette période 1884-1897, il a constitué son équipe. Son adjoint était Louis Armand, qui était un serrurier du village du Rosier.
Louis Armand est né le 23 août 1854 sur la commune de Vabre-l'Abbaye.
Dominique Laroche-Dieuède, guide et chargé des médias à la société Avène Armand.
Près de Saint-Afrique, dans l'Aveyron.
À une ferme qui s'appelait Parache. Donc, c'était des fermiers d'une famille tout à fait modeste.
Armand Curvelier, ancien actionnaire de la société Avène Armand.
Et une famille relativement nombreuse, qui veut dire par là qu'il a dû le plus tôt possible trouver du travail dans le coin.
Louis Armand, c'était quelqu'un de très humble, très simple, mais qui, par certains côtés, était génial, puisqu'il a su inventer certains équipements.
Philippe Chambon, historien, membre du club Cévenol, natif de Méréueis.
Il trouvait toujours la solution au problème, on peut dire. Je pense que c'était une intelligence très vive. Et puis, c'était aussi quelqu'un, apparemment, d'un abord très facile et qui est fidèle en amitié. Ça aussi, c'est quelque chose, d'important.
Et c'était un gars très ouvert qui s'intéressait à plein de choses.
Lilian Batelot, auteur du roman Avène.
Mais c'était un gars qui n'avait pas la volonté de se mettre en avant. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très intelligent. On le voit dans sa façon de mener sa vie et dans les rares écrits qu'on peut en avoir et dans ce que les gens disent de lui.
C'est un personnage extrêmement humble.
Guilhemme de Vito, sculpteur sur pierre.
Qui a une activité très importante dans toutes les recherches qui sont effectuées par Martel. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupait de tous les matériaux et très souvent aussi qui est devenu après un découvreur. Et c'était quelqu'un de passionné.
Beaucoup d'imagination, particulièrement adroit.
Courageux, oui, c'est sûr. Fort, mais courageux.
Arnaud Curvelier, administrateur de la société Avène Armand, maire du Rosier.
Têtu, obstiné.
Louis Armand développe une solide réputation. Il est habile, ingénieux, débrouillard.
La traversée de Bramabio, il a quand même fallu la faire. La découverte de l'Argilan, les travaux qui ont été faits dedans, il a quand même fallu les faire. Les aménagements, il a quand même fallu amener le bois, la ferraille pour les premiers escaliers, les premières rampes.
Son gros boulot, suivant une période, c'était surtout pour Martel de faire des barreaux d'échelle. C'était la chose, faire des cordes et faire les barreaux d'échelle. Toute la journée, il faisait des barreaux d'échelle. Il a fait beaucoup de constructions dans le coin. Donc c'était une personne qui était vraiment appréciée pour ça. Et puis qui ne craignait pas le vide ou la sensation des profondeurs.
Les grandes découvertes sont souvent, pour ne pas dire toujours, le fruit de hasard et de rencontres. L'histoire de Lavaine Armand n'échappe pas à la règle. Il a fallu que Martel rencontre Armand, et cette connexion s'est faite par le biais de Louis Curvelier, à l'époque maire du Rosier et transporteur d'explorateurs.
Martel l'a rencontré pour simplement faire réparer le fameux canot qui avait été endommagé dans la descente des gorges. C'est comme ça qu'en fait le premier contact s'est fait.
Il était avec un canoë, un Zugrud. Il a cassé. Donc il rappelle à mon grand-père qui lui servait de transporteur pour le coin. Il explique qu'il ne pouvait plus continuer la recherche dans les gorges du Tarn. Et à la suite de ça, quand il explique à mon grand-père son déboire, mon grand-père lui dit tout simplement « Je connais une personne qui est capable de travailler le fer ou même le bois et peut-être qu'ils peuvent refaire la pièce. » Effectivement, il refait la pièce. Et c'est là que Martel a fait la connaissance de Louis Herman, qui était passionné déjà à l'époque, par la découverte des grottes. Une amitié s'est créée. Mon grand-père, à ce moment-là, était maire du village du Rosier. Alors, il s'est renseigné sur ce qui pouvait être découvert dans la région.
Et puis Armand, en tant que serrurier, il avait des clients un peu partout sur le coin. Et donc, les paysans, notamment du Cosme-Jean, lui signalaient « Oh, mais il y a un trou ici, il y a un trou là. » Et lui, il l'a répercuté. Il est devenu à la fois un technicien, mais aussi un informateur de Martel dans le recensement des cavités. Armand et Martel, l'amitié entre les deux a fait que ça a été possible.
Martel a toujours dit que s'il avait pas rencontré Louis Armand, il n'aurait jamais fait tout ce qu'il avait fait. Donc, et qu'il a toujours été reconnaissant de ça.
Au-delà de la rencontre entre Édouard Alfred Martel et Louis Armand, la découverte de l'Aven Armand est l'affaire de tout un groupe de protagonistes aux différentes qualités, mais tous passionnés par le pays, que ce soit le leur ou celui de leur cœur.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, dès l'origine de cette période, c'est l'alliance de gens d'origine, de formation, de position sociale, même si le terme n'est pas bon, de vie totalement différente pour aller explorer les entrailles de la terre, pour aller vivre une passion commune. Il y avait aussi Hippolyte Causse, qui était le cantonnier chef de Mervès.
Qui a été le premier guide de la grotte d'Argilane dès l'ouverture au public.
Il y avait également beaucoup de relations avec le club Sévenol.
Et en fait, c'était une équipe. Tous n'étaient pas notables. Louis Herman ne l'était pas. Émile Foulquier ne l'était pas non plus. Il y avait le pasteur, il y avait Paul Arnal aussi. Adrien Fabier était notaire et maire de Peyrelos, qui a beaucoup œuvré aussi avec l'équipe, puisqu'il les a aidés sur certaines redécouvertes ou explorations, que ce soit au niveau des sentiers des Corniches ou que ce soit l'exploration de certaines avins aussi. Mais enfin, je pense qu'une fois qu'ils étaient sous terre, de toute façon, les distinctions sociales, à mon avis, il n'y en a pas grand-chose à faire. Ce sont des gens qui sont passés à plusieurs fois près de la mort, qui ont frôlé la mort. Louis Herman, serrurier forgeron, Fabre, comme on disait en bateau à l'époque, Édouard Alfred Martel, député, géologue. Bon, je ne sais pas si pour eux ça avait une quelconque importance, je ne pense pas. L'essentiel, c'était d'aller de l'avant et de s'entraider pour pouvoir continuer à progresser sous terre. J'ai toujours entendu dire par Daniel André.
Daniel André est président de l'association Édouard Alfred Martel et l'auteur de l'ouvrage « Louis Armand, cet inconnu au nom célèbre », publié en 2021 pour lui rendre hommage.
Que Louis Armand était descendu dans le puits de l'Aven avec une corde à nœud, bien avant qu'il y ait eu cette possibilité d'exploration du réseau en lui-même. Il y avait sur le territoire des gens qui étaient passionnés.
Martel est venu, mais avant lui, il y avait déjà eu des gens qui avaient fait des tentatives d'exploration. Mais bon, ils n'avaient pas de moyens. Et souvent, les trous étaient entourés d'une sorte de mystère, pour pas dire d'une réputation un peu maléfique. Donc, Martel a fait fructifier ce qui avait été semé quelques années avant par des curieux locaux.
En 1892, sous l'impulsion d'Édouard Alfred Martel, Paul Arnal, pasteur à Vébron, spéléologue, et Louis Armand entreprennent l'exploration de plusieurs avennes sur le Cosme-Jean, ce haut plateau calcaire situé entre les gorges du Tarn et celles de la Jonte. Cette campagne d'exploration permettra de répertorier un grand nombre d'avennes, mais rien de comparable à d'Argilan ou Padirac. Faute de temps, ils ne peuvent explorer un avenne intéressant signalé par les habitants, proche du village de la Parade. Il fait l'objet de légendes terrifiantes. Un gosier du diable, accusé d'avaler les troupeaux et les voyageurs égarés. L'exploration de cette avenne est donc remise à plus tard, puis oubliée.
Comment Louis Armand a trouvé l'entrée de cette avenne? Qui lui a indiqué où il était situé? Le mystère demeure et plusieurs versions existent. Ce qu'on sait, c'est que Louis Armand est d'abord allé seul vérifier l'hypothèse d'une grande découverte qu'ils espèrent.
Si Louis Herman a monté un jour sur le Corse, c'est bien parce qu'il avait des choses à y faire. De toute façon, il était ferronnier et le passage près du puits de Lavagne, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les chemins passaient près du puits. Et de toute façon, dans tous les cas, en montant par les Orses, puisque c'était le seul sentier de l'époque, en montant par les Orses, et soit on allait à Elsass, soit on allait aux Irans. Si un jour il a décidé de passer vers les Irans, il est forcément passé à côté du puits, ça c'est sûr. Mais ensuite, que quelqu'un lui en ait parlé là-haut, lorsqu'il allait dépanner une roue d'un char ou autre, c'est possible aussi. Hein.
C'était une personne avec qui il avait fait le régiment, qui en a parlé, quelqu'un de la famille Arnal, des Irans. Voilà.
C'est mon arrière-grand-père qui aurait indiqué l'emplacement de la veine à M. Louis Herman, et M. Louis Herman l'aurait indiqué à M. Martel. Et c'est de là qu'ils auraient lancé, de se décider à venir voir qu'est-ce qu'il y avait.
Le 18 septembre 1897, de retour d'une énième expédition à l'abîme de Bramabio, Louis Herman, se rappelant de cette histoire, fait volontairement un détour par le Cosméjean pour sonder cet abîme. Il prétexte d'aller rencontrer Sylvain Pralon, un agriculteur local susceptible de lui indiquer l'emplacement de cette avène. Il le trouve sans peine, sans faire appel à lui. Les pierres qui les précipitent lui font aussitôt espérer une découverte majeure, il en est absolument convaincu.
Mais j'ai fini par tomber sur ce fichu trou. C'est le meilleur que j'ai jamais vu. Et de loin, croyez-moi. C'est un avène, c'est sûr. La géographie du lieu fait que la bouche de l'avène est presque invisible tant qu'on n'a pas le nez dessus.
Extrait du roman Avène de Lilian Batelot.
C'est une espèce de cratère d'une vingtaine de mètres de diamètre qui s'enfonce dans le sol du Cos. Ce cratère présente une pente raide, même de son côté le plus commode. Une pente encombrée de caillasses qui ne demandent qu'à rouler. Un vrai casse-pattes. Et au fond du cratère, il y a le puits, un trou noir de 3 mètres de diamètre, qui file droit dans les entrailles de la terre. Une fois arrivé près du trou, j'ai sondé le gouffre avec ma ficelle de 50 mètres lestée d'un caillou. Elle n'arrivait pas au fond. Alors, j'ai jeté plusieurs grosses pierres dans la veine, et elles s'en allaient au diable, avec un vacarme pire que tout. C'est lui, c'est notre gouffre, c'est sûr.
Louis Herman veut partager ses impressions et sa joie à Édouard Alfred Martel. À l'hôtel des voyageurs du Rosier, Louis Herman annonce à Édouard Alfred Martel « Hier, en redescendant de la parade, je suis tombé par hasard sur un maître trou. Il monte avec toute l'équipe pour en avoir le cœur net. »
La prise de décision s'est faite après un repas du club Cévenol ici au Rosier, où forcément mon grand-père était présent puisque c'était le maire du village. C'est Louis Herman qui a attendu Martel pour grimper là-haut puisqu'ils avaient tout le matériel ici sur place. En lui disant « Je connais maître Trou, je connais maître Trou, sur le bord du Méjean, on a bien qu'il faut, il faut aller le voir. Voilà. » Et ben Martel a craqué sur venir, il lui a dit « Écoutez, que ça ne tienne, on va monter sur le Méjean. » Mais enfin, à l'époque, monter sur le Méjean, c'était pas un quart d'heure, 20 minutes comme on le fait aujourd'hui. Bon, à l'époque, on partait pour 2, 3, 4, 5 jours, voire une semaine au moins. Et puis après, il fallait le temps d'installer le matériel, il fallait un tombereau, il fallait les bœufs qui tiraient le tombereau. Il y avait une tonne ou une tonne et demie de matériel chargé dans le tombereau qu'il fallait quand même transporter et surtout démonter et ranger après, parce que le repli était quand même beaucoup plus compliqué, puisqu'il y avait beaucoup de cordes en chanvre et qu'une fois que les cordes en chanvre avaient pris l'eau, c'était quand même très lourd à manipuler, les échelles de cordes également. Non, c'était pas facile, hein, pas facile du tout, mais enfin, ils l'ont fait.
Le 19 septembre 1897, dans l'après-midi, Édouard Alfred Martel, Armand Viré et Louis Herman arrivent sur les lieux balayés par un vent glacial. Ils sont lourdement équipés, 1000 kg d'échelles, cordes, téléphones, lits de camp, caisses de luminaires, vêtements, provisions, outils.
Depuis quelques mètres, Armand sent bien qu'il n'est plus dans le puits. À sa gauche, la paroi dont l'humidité accroche par moments la lueur venant du ciel s'est éloignée, mais il la distingue encore. Sur sa droite, en revanche, la paroi s'est volatilisée. Elle s'est évanouie d'un seul coup quelques échelons plus haut. Tout n'est que ténèbres, obscurité totale. C'est peut-être l'endroit où le monde s'arrête, et cette musique, de discrètes notes cristallines.
Louis Herman est descendu en premier, et ensuite ben, Martel, et puis oui, donc Curvelier.
Louis Curvelier, mon arrière-grand-père, est descendu le 7e et dernier, le jour de la découverte, parce que Louis Herman souhaitait que tout soit sécurisé avant que lui descende. C'était le plus jeune de l'équipe. Je pense aussi que c'était lui qui les conduisait, qui les amenait là-haut et qui amenait le matériel, et personne n'avait intérêt à ce que, je pense, mon arrière-grand-père se blesse, hein, parce que sinon ça voulait dire peut-être redescendre en pied au rosier.
Mais bon, cette journée-là, c'était pour eux quelque chose d'événement, autant sur le coin là-haut qu'ici au rosier même, à savoir que les gens étaient surpris de savoir que ces gens-là avaient trouvé une chose pareille.
Ben, disons que le jour de la découverte avec Armand, on en sait ce que Armand et Martel ont écrit, hein, parce que finalement c'était un tout petit comité qui était là. Hein. Je sais simplement, pour avoir entendu notamment mon arrière-grand-mère, qui disait ben, ils sont descendus dans ce trou, ils étaient baou, ils étaient fous. Voilà, c'était. Les gens du coin à l'époque l'appelaient le Traucas, le grand trou. Voilà.
La merveille souterraine des Grands Causses, tant attendu, venait enfin d'être révélé. Ils explorent, ils cartographient, et très vite une évidence s'impose. Ils sont face à ce qui est sans doute leur plus grande découverte. Le spectacle est irréel. Au cœur de cette cathédrale souterraine, une forêt de stalagmites surgit des ténèbres, des centaines de colonnes immenses, silencieuses. Et comme le gouffre était encore anonyme, pour rendre hommage à l'intuition de Louis Armand, Martel décida, sur le champ, qui porterait son nom, l'Aven Armand.
Ils ont trouvé quelque chose de fabuleux. Hein.
Moi, je dirais le premier mot, c'est une splendeur, parce que tout ça, quand même, vient du fait qu'on a vraiment un joyau.
C'est vraiment la découverte de nouveaux mondes. C'est tellement grandiose, c'est irréel. Si on arrive dans un endroit incroyable, une grande salle unique, souterraine, grande comme un stade.
Et d'après Michel Siffre, c'est la seule grotte au monde connu, parce que Siffre, c'était quand même un spécialiste de la spéléologie, c'était la grotte la plus intéressante à découvrir, de par son volume, Notre-Dame de Paris, avec le nombre de stalagmites à l'intérieur, de 1 à 32 mètres de haut.
Qui est vraiment une cathédrale baroque souterraine, incroyable.
Ça reste quand même un lieu unique et grandiose, on va dire. Et par sa beauté, de cette forêt de stalagmites qui en a plus de 400, dont la plus grande mesure presque 30 mètres. C'est l'emblème de l'Aven Armand.
L'Aven Armand, classé site exceptionnel, accueille aujourd'hui les visiteurs avec plusieurs formules possibles pour un voyage hors du temps. Visite Jules Verne, visite exploration ou visite seule au monde, en funiculaire ou en rappel façon Louis Armand. La société Aven Armand fête cette année son centenaire. Et pour célébrer la découverte de l'Aven, fait honneur à Louis Armand en commandant au sculpteur sur pierre Guilherme de Vito une représentation de Louis Armand qui ornera l'entrée du gouffre, celle-là même par laquelle il est descendu pour la première fois.
Il y a trois raisons pour lesquelles j'ai adhéré de suite à ce projet. La première, c'est Louis Armand, personnage extraordinaire. J'ai adhéré à ce projet d'abord par rapport à sa vie. Après, j'ai redécouvert l'Aven d'Armand il y a peu. Je l'avais connu petit, j'avais été déjà émerveillé avec l'émerveillement d'un enfant. Et j'avouerai que là, je me suis rendu compte que je restais un enfant devant un tel spectacle, parce que c'est fabuleux. L'Aven d'Armand, c'est incroyable, c'est féerique, c'est de la pierre à part entière. Ça évolue en permanence, c'est une sculpture vivante. Le projet que l'on fait avec l'Aven d'Armand, il y a un côté transmission, de manière à faire revenir les écoles qui pourront sculpter gratuitement sur la pièce. À savoir que la sculpture-là va représenter Louis Armand, et je me suis imaginé qu'elle lui est descendue de son échelle en corde, ce qu'il a pu ressentir quand il a allumé sa lampe et quand il a vu ce qu'il y avait autour de lui, parce que c'est incroyable. Je ne peux pas représenter Louis Armand statique, c'est impossible, c'est quelqu'un d'extrêmement actif. Autant Martel était la tête que Louis Armand était les jambes, donc je suis obligé de représenter, et je me l'imagine quand il descend pour la première fois. Voilà, l'idée c'est ça.
Toujours pour célébrer le centenaire de l'Aven Armand, Lilian Batelot, auteur de romans noirs et d'aventures, publie un roman intitulé Aven aux éditions La Manufacture, croisant différentes époques, dont celle de la découverte de l'Aven Armand.
Il y a trois époques dans le roman. Il y a des faits qui se passent à l'époque préhistorique, il y a des faits qui se passent à la fin du XIXe siècle, quand Louis Armand découvre le premier l'Aven Armand, et à l'époque moderne, où deux jeunes filles, dont une journaliste, sont amenées à retricoter cette histoire d'une autre manière. J'ai choisi de centrer cette histoire sur l'Aven Armand. Quand il descend, pour la première fois, il descend sur une échelle de corde avec des barreaux de bois, qui fait 75 mètres, qui fait deux fois le beffroi de Millau. C'est pas rien, quoi. J'ai été grimpeur. Donc il y a des choses que je connais, que j'ai pratiquées, comme entre autres les rappels pendulaires. Je sais très bien ce que c'est. Il faut savoir que ça gigote drôlement, quoi. Ça ne va pas de soi du tout, quoi. C'est quand même très athlétique et très compliqué. Il ne m'a pas été trop dur d'imaginer comment ça avait pu se passer et ce qu'il avait pu ressentir.
C'était Laven Armand, une histoire de famille, une histoire de territoire, racontant la découverte de l'Amen en 1897. Prochain épisode, l'histoire de la création de la société Laven Armand qui aménagera et rendra accessible à tous et à toutes cette merveille souterraine, ce trésor de la terre et du temps.
Martel dit que Laven Armand, c'est la plus belle découverte qu'il ait jamais faite et c'est le diamant qu'il a découvert, donc le joyau de la couronne, si l'on peut dire.
S'il n'avait pas été là, Martel aurait certainement pas fait le quart du point des dixièmes de ce qui lui est attribué.
Cette série de podcasts, réalisée par Alex Kerel de Radio Larzac, s'inscrit dans le cadre du programme HITS, Heritage Innovation Territory Tourism Sustainable, cofinancé par l'Europe au titre du FEDER dans le cadre de l'Interreg Sud-OE. Musique additionnelle de Dominique Laroche, Dieu aide. Générique extrait musical de Cédo Labédac. Merci à Vincent Besson, Armand et Arnaud Curvelier, Philippe Chambon, Dominique Laroche-Dieuède, Philippe Gess, Serge Legrenier, Véronique Ciot, Lilian Batelot, Guillaume De Vito et Célian Mallet pour la lecture des extraits du roman Aven.